Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Comme vient de le dire notre chère, je sais plus comment il s'appelle,
Nadia.
Parti. Alors vous êtes toujours à l'écoute du 102.2 sur la bande FM et sur radiocanu.org et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h et ce soir dans les studios nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Fab. Alors.
Voilà. Et avant nous c'était Dead Moon Night.
Mais bien évidemment.
C'était vachement bien.
Mais oui, ils nous ont manqué la semaine dernière. On n'a pas pu déprimer en paix. Eh bien, je vais vous rappeler comment nous joindre, évidemment, avant de passer à la causerie en format un peu habituel. Donc, si vous voulez nous envoyer un mail, n'hésitez surtout pas tant que les blogs de la de Radio Canu n'ont toujours pas les commentaires ouverts, n'hésitez surtout pas à faire des retours par mail. On sera ravis, parce que des fois on a l'impression qu'on fait de la radio pour nous tout seul, et que c'est pas le but. Donc voilà, n'hésitez pas, même si c'est pour nous dire qu'on fait des choses pas bien, mais avec des formes quand même, hein, s'il vous plaît. Alors, donc j'ai dit le mail, et je vais vous rappeler aussi comment écouter les causeries précédentes, les 430...
30, parce que la 31e c'est aujourd'hui.
Oui, c'est ça, 430 numéros précédents, celle-ci. Mais qu'est-ce qu'il est désagréable. Alors, donc c'est à blogs.radiocanu.org/la causerie ou dans votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez la causerie Radio Canu et normalement vous tombez sur nous et on est aussi sur un réseau socio-commercial.
Et dans les podcasts, à droite à gauche.
Et dans les podcasts et tout ça. Donc normalement, si vraiment vous voulez nous trouver, il n'y a pas d'excuse.
On est sur les trucs qui finissent en heure, les trucs qui finissent en aïe, enfin tout ça quoi. Bah ouais. Bah, je vais pas donner les marques pour les podcasts.
Ah, ok. Oui.
Voilà.
Ouais. Bah écoutez, si vous avez compris ce que Fab vient de dire, n'hésitez pas à envoyer un mail.
Deezer et Spotify, voilà, quand même quoi.
Bah oui, mais excuse-moi.
Oui, mais la vieille génération, je me
c'est carrément ça, je suis tellement old school.
Il est tellement à l'ouest. Vous savez, il y a encore des 78 jours chez lui.
C'est vrai.
Ça promet.
Bon. C'est tout à fait ça. J'ai un gramophone d'ailleurs.
C'est ça, tout à fait.
Alors, je vous ai tout rappelé, mail, blog, ouais, etc. Donc, c'est Fab là qui va nous causer climat et tout ça, je crois bien.
Oui, alors je vais vous faire un petit retour. Vous allez voir, vous allez vous dire, tiens, il a déjà parlé de ça il y a 6 mois. Et c'est vrai, voilà.
Oui, donc, ne croyez pas qu'il radote. Non, mais c'est pour prévenir les éditeurs et auditrices, on ne sait jamais. Pas qu'il s'inquiète pour toi. Il est conscient qu'il a déjà parlé du sujet.
C'est pas très gentil, ça.
Mais non, arrête.
Non, mais pourquoi en fait? Parce que je vous avais parlé du pré-rapport du GIEC, et en fait, ce qui vient de sortir aujourd'hui, c'est le rapport définitif et final pour l'année 2022 du GIEC, parce que vous savez que le GIEC rend un rapport tous les 2 à 3 ans selon les échéances et selon ce sur quoi il réfléchit. Alors, c'est pas n'importe quel rapport, hein, celui-là, parce que c'est la seconde partie. appelé en fait second volet, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans les, en sciences, du rapport sur le climat, c'est-à-dire en fait c'est ce qui permet la compréhension physique. Ça, c'était le premier volet. Donc, en gros, la compréhension physique, c'était il y a une dizaine d'années que le premier rapport consolidé est sorti. Alors, en fait, ben, c'est est-ce que vraiment l'être humain a un impact sur le réchauffement climatique ? Voilà. Et ça, ça a déjà été acté. Donc, à part quelques illuminés, tout le monde est à peu près d'accord pour dire oui, on a un impact. Voilà. Après, c'est graduel, on réfléchit à combien et quel pourcentage d'impact, mais on a un impact dans tous les cas sur le dérèglement climatique.
Et attention, les illuminés ne sont pas forcément teubés.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, hein. non, c'est pas toi que je veux dire. C'est juste, en fait, faut pas croire que ceux qui nient la réalité, des fois, ils ont des gros bagages universitaires, intellectuels, etc. Ils vont vous enrober tout ça de jolis beaux mots.
Ouais, mais ils disent c'est de la négation merde. Du réel. Quoi.
C'est ça.
Donc maintenant, en fait, le second volet, ça portait plus sur les conséquences sur l'humanité. C'est-à-dire, en fait, c'était plus une réflexion sur, bon, bah, une fois qu'on a dit qu'on avait un impact, est-ce que ça va avoir un impact ou pas sur nous, nos modes de vie, la façon dont on est, tout ça. Tout ça. Et donc, en fait, contrairement à ce que donc quelques climato-sceptiques continuent à dire, le GIEC a donc bien un avis sur les conséquences et ne sert pas que de Cassandre au petit bras au service des États qui seraient là pour faire peur. Ils ont quand même une notion d'analyse aussi de la situation et ils donnent des avis, ils rendent des avis. Alors, ce ne sont que des avis, hein. C'est des scientifiques qui ne sont pas politiques. Donc, bah, après, l'avis, t'en fais ce que t'en veux, hein, comme ils disent, mais en fait, ils rendent des avis en disant, bah, voilà, nous, on sait que ça va avoir tel type d'impact, que ça peut avoir telles conséquences. Voilà. Donc le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, c'est ce que veut dire GIEC, pour ce rapport, il a rassemblé 270 scientifiques de 67 pays dans le monde, donc c'est pas mal hein, quand même. Et il y a eu la relecture de plusieurs dizaines d'experts du monde entier. On estime qu'au final, il y a un peu plus de 125 pays qui ont été impliqués dans la relecture à minima. Donc niveau crédibilité, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. C'est-à-dire voilà, en termes de crédibilité scientifique, on est un peu au high level quoi. C'est pas un gars assis sur une chaise devant une vidéo YouTube qui vous dit à moi dans 15 jours c'est fini. Hein.
Tu sais quoi, je pensais la même chose.
Voilà, donc c'est vrai. Donc ce rapport, il vient en fait confirmer deux choses. Hein. Nous sommes bien dans les deux pires scénarios envisagés. Déjà, ça c'est ce que ce rapport finit par établir. J'en avais déjà parlé dans l'émission, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression d'une redite, mais en fait c'est une continuité plus qu'une redite. Voilà. Et surtout, ça aura un impact énorme en fait sur l'humanité en termes d'impact humain et économique. Donc en fait, le GIEC il tire simplement la sonnette d'alarme en disant, ben, vous capitalistes, hein, parce que c'est un petit peu le sens, moi je suis allé lire un peu le compte-rendu qu'ils font. Alors c'est toujours scientifique, donc c'est toujours écrit, on va dire un petit peu de façon prudente, ou du moins plutôt pas à demi-mot, mais comment dire, c'est pas des militants, donc ils sont pas frontales, même si ce qu'ils annoncent c'est pas très joyeux, mais en gros ils disent, bah, vous capitalistes, croyez pas que le réchauffement climatique ça va pas vous impacter, voilà.
Oui,
au
oui.
contraire même. Voilà.
Oui, oui, mais en même temps, ça rejoint aussi le fait que ce que tu disais avant, ils sont pas là pour faire de la politique.
Oui, c'est ça, c'est qu'ils
essayent
de
constat.
Poser un constat. Et pourtant, il y a certains déjà chefs d'État, notamment Biden et notamment aussi Emmanuel Macron, dans une petite déclaration qu'il a fait, qui sous-entendent que le GIEC sort un petit peu de ses prérequis parce qu'ils osent montrer du doigt certaines choses. Bah, sauf que c'est leur job. Donc à un moment donné, on va pas demander aux gens de faire un truc, puis quand ils le font, leur dire tu devrais pas le montrer.
Oui, c'est ça. Tu devrais pas passer sous silence des trucs juste parce que ça t'arrange.
Bah, voilà, c'est un peu le truc. Voilà. Donc alors. Il y a ce qu'on appelle en ce moment, c'est pour ça que le GIEC a beaucoup insisté sur le fait qu'on était dans les deux pires scénarios, il y a ce qu'on appelle en ce moment des preuves tangibles. Alors les preuves tangibles en science, je vous rappelle, la science ça s'appuie toujours sur des faits, ça s'appuie pas que sur des théories. Donc la science c'est on théorise quelque chose d'un côté et de l'autre côté on vérifie avec des faits si la théorie est juste. Voilà. Donc les scénarios qu'il y avait du GIEC depuis les années 90 étaient des théories. C'est pour ça qu'il y avait 7 scénarios, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé.
Ouais.
Il y avait 7 scénarios du moins pire
oui,
au plus
soft
pire.
Voilà,
du
plus pire.
Bah, du moins pire, parce que ça avait quand même un impact.
Ouais.
Au plus pire, on va peut-être avoir beaucoup de décès et compagnie. Mais en gros, il y avait 7 scénarios. Alors il y en a un qui a été éliminé, c'était le scénario 7, qui était le pire du pire.
Okay.
Pour une raison simple, c'est qu'il a été démontré en fait, qu'il avait poussé les curseurs beaucoup trop loin.
Okay.
Et qu'on n'arriverait jamais à plus, ça je crois qu'on montait jusqu'à plus 12 degrés en moyenne sur la planète, et que ça on n'y arriverait jamais, même si on brûlait tout le pétrole du monde et tout le gaz du monde. Donc il a été éliminé. Voilà.
Intéressant quand même aussi que tu le dises.
Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc ils sont restés sur 6 scénarios en gros. Et en fait, là, ce qui arrive en ce moment, bah, c'est un petit peu ce qui est décrit dans les deux pires scénarios. Voilà, donc 5 et 6 en fait, parce qu'ils sont classés comme ça. Donc, vous entendez souvent dire, alors notamment sur des chaînes de droite, c'est pas parce qu'il fait chaud que c'est la preuve du réchauffement climatique, hein. Voilà. Voilà. Alors déjà, rappel, c'est pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique et pas seulement un réchauffement. C'est, en fait, le réchauffement, c'est la conséquence. C'est-à-dire que la planète se réchauffe, mais il y a dérèglement. Donc en gros, il suffit simplement qu'on ait un léger réchauffement de 0,5 degrés en moyenne pour avoir des dérèglements qui peuvent être très violents à certains endroits du monde et pas du tout perceptibles à d'autres. Bon, bah après, plus vous montez en température et plus ces dérèglements sont perceptibles et visibles. Donc voilà. Mais en fait, on a des preuves. En fait, la preuve tangible, c'est la répétition. Parce qu'en fait, c'est ça en fait, qui permet de voir, c'est est-ce qu'un phénomène se répète de façon systémique. C'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment. Alors, les scientifiques rappellent que systémique, ça ne marche pas dans le cadre du climat, parce qu'il n'y a pas un système climatique. Mmh. Voilà, mais c'était pour reprendre un terme. Voilà. Mais en fait, c'est est-ce que ça se répète de façon cyclique. Parce que c'est un deux cycles qu'on parle.
Constante
et cyclique. Donc, en fait, si une phase de température exceptionnelle, là, en fait, non, il y a une preuve, hein, ça, tous les scientifiques le disent, même les gens du GIEC, c'est la répétition de phases anormales qui devient une preuve à terme. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, voir une confirmation d'une hypothèse, parce que c'est ça un peu qui... Bon, alors, c'est ce qui vient en fait de se passer au pôle Nord. Mmh. Voilà. Alors, ça fait maintenant 6 années de suite que la température en février-mars, elle y est plus élevée qu'attendue. Et alors, quand on dit plus élevée que l'attendue, elle est vraiment plus élevée que l'attendue. Et cette année, elle est même à 40 degrés Celsius au-dessus des attendus qui s'est produit là. On était 40 degrés au-dessus. Alors, j'ai entendu, je sais pas le citer, mais bon, je vais quand même si le citer parce que j'ai entendu Pascal Praud dire, mais il fait pas 40 degrés au pôle Nord, il raconte n'importe quoi. Alors, on va lui expliquer ce que c'est qu'une soustraction et une addition.
C'est-à-dire quand tu pars de moins 20, voilà, tu fais plus 40, tu n'arrives pas à 40.
En réalité, ces deux derniers jours, au pôle Nord, il a fait 23 degrés. Mais d'habitude, il fait moins 18. Oui. Donc ça fait un delta, attention, de 37 degrés. Et oui, et il y a même eu une pointe à 40 degrés de delta. Donc on expliquera un jour à Pascal Praud comment ça marche une addition et une soustraction. Mais ça va bien se passer. Donc de la même façon... Si vous vivez pas dans une grotte, vous avez sans doute remarqué que nous avons une nouvelle fois un printemps très chaud. Hein. Il suffit de regarder aujourd'hui à Lyon, il fait 22 degrés. On est en mars, on est le 27. C'est pas logique. Voilà. Enfin, et ça, c'est pas la première fois que ça se produit. Ça fait plusieurs printemps qu'on a une répétition. En moyenne.
C'est ça qu'il faut faire gaffe. Il faut pas tirer du aujourd'hui, il a fait chaud. C'est donc... ça.
En fait, en moyenne, nous sommes 7 degrés au-dessus des attendus depuis une semaine. Mmh. Voilà. C'est énorme, hein, 7 degrés. Hein, ça paraît rien. Mais... Et en fait, sur le mois de février, donc le mois passé, en moyenne, on était 2 degrés au-dessus des attendus. Et en fait, ça fait 9 années sur 10 que ça se produit. Et quand ça fait 9 années sur 10 que ça se produit, le cycle est récurrent. Parce qu'avant, ça se produisait que tous les 15 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a accéléré un cycle. C'est-à-dire que c'est pas que c'est exceptionnel, vu que ça se produisait déjà. Mais avant, ça se produisait rarement. Maintenant, ça se produit quasiment chaque année. Donc c'est ça, en fait, qui permet de dire, oui, on a une preuve tangible que le réchauffement climatique se met en place. Et ça, vous pouvez le trouver dans le rapport du GIEC. Ils expliquent très bien par géolocalisé, que à certains points, en fait, on remarque que ça monte et ça n'arrête pas de monter. Alors que ça devrait ou redescendre ou se stabiliser. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, entre ce qui se passe du côté du pôle et ce qui se passe en France, et le fait qu'un peu partout en Europe, on remarque il y a la sécheresse, il y a du vent, il y a Jean-Yves qui se mord à la poire et qui prend un fou rire. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous savez, Jean-Yves, quand tu lui parlais du fait que ça se réchauffe, ça le fait rire. Voilà.
Le rire est le signe du désespoir aussi, je crois.
Donc, je reprends. Donc, en fait, vu ce qui se passe en France, en Europe et un petit peu partout dans le monde, il est en fait confirmé que ce sont les deux hypothèses les plus impactantes qui semblent prendre la pente de ces deux hypothèses-là. Avec deux, trois choses imprévues hein, qui se sont produites et qui ont surpris, y compris les experts en climat. Alors notamment, les sables qui remontent du nord par les airs en venant du Sahara, par exemple, ça semble faire de plus en plus souvent. Et en fait, c'est pas très logique. C'est-à-dire que on s'explique pas encore exactement le pourquoi du comment. Mais par contre, ça arrive de plus en plus souvent. Et ça a un impact sur le réchauffement climatique, parce que ça fait un effet dôme.
Oui, mais parce qu'en fait, le climat, c'est pas juste une question de température, c'est aussi des courants d'air.
C'est tout, en fait.
Enfin, on parle des fois du Gulf Stream, etc.
Ouais, c'est ça.
C'est un courant, alors là, c'est un courant marin, mais...
J'avais fait un sujet sur le Gulf Stream, vous pouvez vous y référer, et où justement, on avait été aussi surpris de la vitesse avec laquelle il a ralenti. Et il a ralenti parce qu'il s'est mis à faire plus chaud au pôle Nord, et qu'en fait, la glace a fondu plus vite, et que donc, voilà, et donc ça, toutes les conséquences sont liées.
Enfin, le climat est une grosse machine, quoi. quoi.
C'est ah oui, tout à fait. C'est pour ça que quand on vous dit les climatologues, ils ont toujours des doutes. Ouais, par principe, parce que s'ils pouvaient tout expliquer avec une ligne droite et un compas, ils le feraient. Mais c'est pas aussi simple. Il y a des milliers d'équations. Il y a des milliers de comment on appelle ça?
Possibilité.
Il y a des milliers. J'ai perdu le mot. De paramètres dans l'équation. Paramètres. Voilà, pardon.
Et en même temps, pardon, je recoupe ouais. Encore une fois. C'est que le doute, comme on en a déjà parlé,
c'est scientifique. Hein,
c'est scientifique
ouais,
le doute,
par définition.
En fait.
Donc voilà. Donc du coup, ça déjà, ça a un peu surpris parce qu'il y a de plus en plus souvent, et moi qui habite Lyon depuis 44 ans, bah effectivement, je me rends compte que ce vent de sable que quand j'étais gamin, on voyait une fois tous les 10 ans et qu'on trouvait ça super beau parce que c'était orangé et tout, là, ça fait déjà 3 années de suite qu'il y a un vent de sable et qu'il y a un ciel orangé. C'est étonnant, c'est étrange, mais voilà, c'est comme ça. Mais ça s'explique pas encore exactement, mais on sait que c'est lié à la transformation des courants atmosphériques. Voilà. Les pluies, en fait, elles ont aussi tendance à se recentrer sur des périodes plus courtes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes de pluie très intenses et fortes sur 1, 2 ou 3 jours, là où en fait on avait des périodes de pluie modérées sur 1 mois. Alors il y a le même volume d'eau qui va tomber, ouais. Voilà, mais sur une période beaucoup plus courte, beaucoup plus destructrice, parce que quand ça tombe tout d'un coup, ça fait des inondations. Et surtout, les sols, ils absorbent beaucoup moins, parce que quand ça tombe d'un coup, ça ravine. Voilà, donc en fait, ça c'est aussi quelque chose, et ça arrive plus rapidement que ce qui a été prévu. Ça, ils estimaient, les scientifiques, que ça arriverait dans 15-20 ans. Et ça arrive aujourd'hui, on constate aujourd'hui en fait ces effets de ce qu'ils appellent de compression des pluies. Voilà. Il y a aussi un assèchement de l'air. Alors ça peut vous paraître très étrange, mais il faut savoir qu'aujourd'hui la France, on est au mois de mars, on est déjà en période de sécheresse dans plusieurs régions. Et c'est lié en fait à cet assèchement de l'air. Et alors ça vous semble peut-être peu perceptible, et c'est compliqué, moi aussi j'avais pas forcément cette impression-là. Mais en fait, il y a des événements dits d'air sec qui arrivent régulièrement. Alors pour les Lyonnais, par exemple, c'est le vent du Nord. On a plus de vent du Nord qu'avant. Et ça, le vent du Nord, il est sec. C'est très, oui, parce que le vent du Sud venant de la Méditerranée,
oui, il
transporte
emmène avec
de l'eau.
Lui une part d'humidité.
Alors que le vent du Nord, lui, il n'arrive pas de la mer du Nord.
Terres, hein.
Il vient des terres, et donc en fait, généralement, il vient même, c'est un vent d'est qui se transforme en nord, en tournant sur la France. Et en fait, c'est de l'air sec. Et cet air sec, en fait, il n'amène pas d'eau et il assèche tout. Il assèche les sols, il assèche les cultures, il assèche tout. Et par exemple, les apiculteurs se sont rendus compte que les abeilles avaient beaucoup plus de mal à faire du miel l'année dernière parce qu'il y avait du vent du Nord quasiment tout le temps. Et que le vent du Nord asséchait le pollen et ce qu'elles boivent, le nectar, c'est ça. Aujourd'hui, je suis fatigué, pardon. Donc, vous voyez, ça a été multiplié par 2, par exemple, sur la région lyonnaise ces derniers temps. Et il y a des endroits, notamment en Alsace, où ces phénomènes, ils ont été multipliés par 3. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a eu aussi des grosses difficultés sur le vin alsacien. Okay. Parce que c'est lié à la sécheresse et c'est lié à ce vent qui vient pas chargé d'eau, quoi, en fait. Voilà.
Okay, ouais.
Enfin, plutôt de l'est en Alsace que du nord, mais voilà. Oui. Et donc, ça vient du fait qu'en réalité, il pleut plus sur les océans que sur les continents. Alors, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le constat qu'on fait avec les satellites, tout ça, c'est de voir qu'en fait, il s'est mis à plus pleuvoir sur les océans que sur les continents. Et ça fait que les nuages se vident avant d'arriver. Et que du coup, en fait, le fait qu'il pleuve, c'est un phénomène très étrange, mais ça refroidit la surface de l'océan. Et en refroidissant la surface de l'océan, ça fait moins de vapeur d'eau qui s'évapore. Et donc moins de nuages. Vous voyez, c'est une sorte de cycle un peu.
Et que s'il pleut plus sur les océans,
il pleut moins sur les continents.
Oui, mais ce qui veut dire que c'est aussi lié toujours encore à cette. À ces mouvements de
masse d'air,
etc., qui ont des courants différents.
Alors, c'est certes pas très rassurant, hein, je vous l'accorde, mais n'oublions pas que cela fait quand même 30 ans que le GIEC nous alerte. Hein. Donc voilà. Donc on va quand même pas se dire que c'est nouveau et se dire, alors ils ont pu nous prévenir avant, ça fait 30 ans qu'ils le font. Et en fait, ça fait 30 ans qu'ils nous hurlent dans les oreilles qu'il est temps d'agir et de faire quelque chose. Donc on va pas non plus jouer les surpris. Là, je ne fais que du constat ce soir, pardon. Alors, est-ce que c'est tout ce que dit ce rapport? Eh ben non, justement. Et au-delà de la guerre en Ukraine, je ne suis pas étonné vraiment que ce rapport ait été peu discuté ou peu relayé ou mis en avant dans des émissions ou autres. Alors, il suffit d'une légère remontée de la courbe de Covid pour que vous ayez 5 émissions spéciales sur le Covid. Le rapport du GIEC sort et on n'est pas capable ou quasiment pas de faire une émission spéciale sur le rapport du GIEC. C'est étonnant, mais c'est quand même un peu marquant et ça montre qu'on a du mal en fait à s'intéresser à cette donnée-là ou alors qu'on veut carrément pas s'y intéresser. Je sais pas lequel des deux est
c'est-à-dire que le Covid, on peut toujours chercher les responsables.
Voilà.
Le changement climatique,
on les connaît
un petit peu.
Voilà. Donc en effet, figurez-vous que le GIEC ose s'interroger dans ce rapport sur les conséquences concrètes du dérèglement climatique. Ainsi, on peut lire dans le dernier rapport que, Et là, je cite, les causes profondes de la vulnérabilité de certaines populations sont en partie liées au contexte politique, économique et sociaux, évidemment, à la fois présent, mais aussi hérité. Alors, quand on lit ça, il y a des gens qui me disent, ouais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette phrase? Alors, je vous rappelle, c'est des scientifiques, ils ne font pas de politique, donc ils peuvent pas écrire. Les capitalistes, ils ont foutu le bordel un peu partout, et là où ils l'ont foutu le plus, c'est là que ça va morfler le plus. Ils pourraient l'écrire comme ça, mais non, ils le font pas. En fait, ce qu'ils essayent d'expliquer, c'est que dans les régions qui ont déjà hérité d'une situation complexe, les endroits qui sont désertifiés, l'endroit où l'accès à l'eau est complexifié, et ben, en fait, le réchauffement climatique va venir s'ajouter à ça. Et en fait, bah, ils le disent eux-mêmes, les risques climatiques exacerbent les inégalités qui pouvaient préexister. C'est-à-dire qu'en fait, pour les experts, ce qu'ils décrivent noir sur blanc, c'est que, en réalité, dans les pays riches, comme on n'est pas touché, on s'en fout, pour l'instant. Mais qu'en fait, ça touche déjà aujourd'hui les pays les plus pauvres, ou les pays les plus problématiques en termes de développement, on va dire. Voilà. Et attention, hein, le rapport, il va plus loin. Parce que ça, il parle de la nécessité d'une justice climatique. Et ça, c'est la première fois que le GIEC impose cette dénomination-là, qui va de pair avec une plus grande justice sociale. Voilà, puisque nous ne sommes pas tous égaux face au risque de dérèglement climatique, et qu'actuellement, le dérèglement climatique s'accélère. Donc voilà. Et donc, sans une réelle meilleure répartition des richesses et des outils d'aide, nous ne verrons que se creuser encore et toujours les inégalités mondiales. Ça, je l'ai résumé du rapport. C'est pas moi qui écris ça.
Mais est-ce voilà. que là, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que là, justement, ils ne commencent pas à faire de la politique?
Bah, en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un moment donné, eux, ils ne peuvent pas non plus rester avec simplement un constat et dire, bah écoutez, on va faire des chiffres, on va dire, bruts.
Oui, c'est-à-dire que...
Et faire comme si ça ne touchait pas les gens, quoi. Enfin, oui. c'est pas possible. Donc en fait, ils ont essayé quand même d'insuffler une notion qui est la notion en fait de justice climatique. Et ils expliquent que peut-être qu'ils le disent, hein, d'ailleurs dans le rapport à demi-mot, ils disent peut-être qu'on sort de ce pourquoi on a été créé au départ, mais qu'à un moment donné, bah, il faut bien qu'ils proposent des outils, parce que c'est ce qu'on leur demande aussi. Et comme ils disent, on va pas faire que proposer des outils, de dire il faut rouler moins en voiture, faut pas faire couler l'eau quand on se brosse les dents, et voilà. Et ça, ils disent non, ça va pas suffire, c'est une évidence. Donc eux, ce qu'ils tracent, c'est en fait une idée que le social est lié en fait au reste, et qu'on peut pas découpler tout, et que le dérèglement climatique, il a avant tout un impact social et sociétal. Et ça, en fait, bah, c'est un constat scientifique. C'est pas un constat uniquement, on va dire, politique. C'est bien un constat. Ils voient que dans les pays où c'était déjà compliqué, c'est encore plus compliqué aujourd'hui, et que ça va aller en s'accélérant. Donc voilà. Donc effectivement, il y a une part de politique, mais dans le sens où le constat les amène à un moment donné à dire, voilà quoi. Mmh. Et on va être très clair, hein, dans les scientifiques qui sont au GIEC, je suis pas sûr qu'ils soient tous d'extrême gauche. Hein.
Oui, non.
Donc je veux dire, non, mais voilà. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est un constat partagé. C'est-à-dire que ce rapport, comme je vous l'ai dit, il est rédigé par des dizaines de scientifiques, il est relu par des centaines de scientifiques. Et toute personne n'a fait modifier cette partie. Mmh. C'est bien qu'à un moment donné, il y a un consensus scientifique pour dire, bah, il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà, c'est un peu le truc ouais, qui pose ça. Allez, moi, je vais vous faire un petit rappel qui gratouille, d'accord, d'ailleurs, en parlant de ça. Donc, il a été prouvé que 10% de la population était responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Alors, ces 10%, elles sont donc les principaux acteurs qui doivent agir et changer pour sauver ce qu'il reste à sauver de notre biodiversité et de notre planète de manière générale. Alors, la planète, elle va s'en remettre. Hein. Quand on dit planète, c'est la planète où on vit. C'est oui, plus nous, on puisse y vivre.
L'environnement.
Sinon, quand on sera plus là, elle se démerdera. Elle a fait sans les dinosaures, elle fera sans les humains. Et oui, c'est bien de nous, en fait, dont on parle, et le nous étant les habitants des pays riches, hein, parce que c'est 10%, c'est les pays riches. Même si en leur sein, au sein des pays riches, je vous rappelle, il est clair que ce sont les plus riches qui polluent. D'ailleurs, on estime que 13% des Français sont responsables de 55% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et autant le dire, ça correspond à la proportion des plus riches. Voilà. Donc vous voyez, je pense qu'on commence à voir qui on peut cibler politiquement. Parce que bon, eux, ils ne le ciblent pas, mais nous, on peut.
Oui, nous, on a le droit.
Nous, on a le droit de dire, en fait, vous voyez qui vous pouvez cibler. Voilà. Donc je pense que ben, il faut réfléchir à cette logique-là et de comment on en arrive là. Le rapport, il souligne qu'en 2021, il y a 3,3 à 3,6 millions de personnes qui vivent actuellement dans un contexte très vulnérable au réchauffement climatique. Alors, c'est pas compliqué, hein. Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est très compliqué de savoir combien il y aura de déplacés climatiques, tout ça, c'est au doigt mouillé, on n'est pas obligé de les croire. Bon. » En fait, les rapporteurs du GIEC, ils le disent, c'est pas un chiffre absolu, c'est une estimation. Alors, comme ils disent, s'ils se gourent et que c'est moins, tant mieux. Oui, vous voyez, c'est un peu le truc. Sauf que là, c'est un constat. C'est-à-dire que sur 2021, ils constatent, 2020-2021, ils constatent en fait que 3,3 à 3,6 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire, pour le redire, c'est plus grand que la métropole du Grand Lyon, hein, quand même, hein, pour, en volume de personnes, et bien en fait, ils ont subi de plein fouet le dérèglement climatique, notamment dans l'accès à l'eau. Et ça, en fait, c'est un marqueur pour eux qui est extrêmement fondamental. L'accès à l'eau, ça va être, dans les 20 ans qui viennent, l'une des premières causes de violence envers les populations. Et ça, ils le disent. Ils disent, bah oui, on le sait, parce que quand l'humain n'a pas accès à l'eau, c'est là que les tensions se mettent en place.
Et c'est aussi une cause de certaines guerres, déjà.
Bah, tout à fait.
Non, mais je veux dire, c'est l'accès à... En fait, les guerres sont toujours économiques.
Bah, c'est l'accès aux ressources, hein, de toute façon. Voilà. Donc, les experts du groupe, ils appellent à une action politique urgente. Alors, eux, ils appellent à une action politique. Ils disent pas...
ce qu'il faut faire.
Non, ils disent que c'est le seul moyen d'activer un retour à un climat moins déréglé. Parce qu'ils n'en sont plus le GIEC à dire qu'on pourra ne pas dérégler le climat.
Non, c'est comment on ils disent comment... à la hausse. Quoi.
En fait, ce qu'ils disent, c'est que ce serait bien qu'on passe de 5 et 6... Allez, si on pouvait passer à 2 et 3, vous voyez,
oui, les scénarios
voilà. Si on pouvait remonter à 2 et 3, 1, ils savent que c'est plus possible, hein. C'était un 5 degré de réchauffement global d'ici 2030, c'est foutu. Donc ils disent, bon, il serait bien qu'on passe à 2 et 3, ça serait pas mal, parce que là, si on reste à 5, 6, c'est pas terrible, vous voyez, donc c'est un peu ce qu'ils disent. Donc ils rappellent d'ailleurs que les accords de Glasgow, hein, qui datent de 2021, lors de la COP26, ils prévoyaient un doublement des budgets pour lutter contre le réchauffement climatique, et autant vous dire que, même si ça avait été exigé, hein, à l'époque, vous rappelez, on a dit c'est une exigence, on a incontournable. On se souvient d'Emmanuel Macron, hein, qui avait fait un superbe discours en disant que oui, bah maintenant il faut sortir les doigts du cul parce qu'il peut y aller. Hein. Pardon, il l'a pas dit comme ça, il parle mieux, mais voilà. Mais vous vous souvenez un peu de ce ton très un peu martial qu'il avait, voilà. En fait, rien n'a été respecté par les États. Hein. Il n'y a qu'un État au monde qui a respecté ça, c'est les Tuvalu, qui est une toute petite île qui elle est en train d'être submergée par les eaux. Hein. Voilà. Et en particulier, un des États qui a le moins payé, bah, c'est la France. Voilà. Donc, voilà. Au passage, hein, je le dis comme ça.
On peut pas moins taxer les bourges, on peut pas augmenter le budget militaire, et en plus...
Il faudrait en plus sauver le climat.
Non, mais ça va, quoi.
Donc, à long terme, il y a aussi des choses qui sont à souligner. Je suis un peu loin, je suis désolé.
Non, mais c'est pas...
voilà. Le déclin de la biodiversité, aussi bien terrestre que marine, les maladies liées à l'alimentation ou à l'eau, ont tendance à augmenter. C'est-à-dire, ça, c'est un constat. Et le rapport, le chiffre, c'est-à-dire qu'ils ont pris ils sont partis de 1990, ils ont regardé aujourd'hui, ils se sont rendus compte, hein, par exemple, pour les maladies liées à l'alimentation ou à l'eau potable, ou voilà, la multiplication, c'est x4. Hein. Donc, c'est pas anodin. Ça fait des millions de personnes en plus qui sont impactées. Alors, ils le disent, hein, y a une partie, c'est lié à la guerre, notamment la guerre au Yémen, la guerre au Congo, voilà, parce que les guerres font que l'accès à l'eau est compliqué, mais c'est pas que lié aux guerres.
C'est ce que j'allais te demander, ils comptent aussi... justement les victimes de guerre qui...
Ils prennent en compte ce facteur parce qu'il existe et qu'on peut pas non plus dire voilà. Par contre, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils disent il y a une partie des guerres, comme tu le disais toi-même, c'est lié à l'accès aux ressources, et on va pas se mentir, il y a certains endroits où on sait que c'est lié aux ressources liées à l'eau.
Lié,
donc il y a un lien quand même. Ils disent, faut pas non plus... Enfin, comme le dit un des scientifiques dans une interview, on va pas non plus se mettre les mains devant le visage en disant les guerres n'existent pas. Donc la fréquence et l'intensité des sécheresses, des inondations et des canicules a également augmenté. Alors dans certains endroits du monde, par exemple aux États-Unis, pour les sécheresses, c'est x3 dans certains États par rapport à ce que c'était en 1990. Sur les plaines russes et notamment sur la taïga ou sur la Sibérie, on a un réchauffement assez généralisé qui fait qu'en fait on a des phases de sécheresse, ce qui n'existait pas sur des régions qui sont quand même tourbières, donc qui sont censées être extrêmement humides. Donc voilà, il y a quand même des choses. Et du coup, les famines et le manque d'eau suivent, hein, et automatiquement, il y a de plus en plus de gens atteints par la famine et le manque d'eau.
Oui, parce que ça veut aussi dire impact sur les cultures.
Voilà,
en sachant qu'on sait que la Russie ou l'Ukraine, etc., sont des grands pays...
Mais des greniers à blé. Hein,
des greniers,
avec le conflit ukrainien aujourd'hui, on se dit si l'Ukraine ne sème pas le blé, il va y avoir des milliers de gens qui vont crever la dalle en Afrique.
Et donc là, forcément, aussi, le climat a un impact sur les récoltes, et donc forcément sur combien de personnes vont pouvoir se nourrir.
C'est exactement ça. Donc les experts, ils soulignent aussi qu'on observe une montée de l'anxiété et du stress liés à des traumatismes, par exemple suite à la perte de logement due à des catastrophes naturelles. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, quand on le dit comme ça, mais il rappelle par exemple les couloirs de tornades aux États-Unis. On se rend compte aujourd'hui aux États-Unis que les tornades, elles sont beaucoup plus fréquentes qu'avant. Elles arrivent au mois de décembre alors qu'elles sont censées arriver en mars-avril d'habitude. Elles rasent des villes entières et qu'en fait, il y a des gens, ils sont touchés 2 à 3 fois dans l'année. C'est-à-dire que deux à trois fois, ils ont une tornade qui vient soit balayer leur maison, soit qui passe à 200 mètres de chez eux. Et en fait, ça crée une anxiété. Et ça, en fait, il dit, c'est une donnée nouvelle, mais qui est mesurable. C'est-à-dire que cette... Et attention, il ne parle pas de l'éco-anxiété, hein, le truc qui est à la mode. Okay. Ce n'est pas du tout de ça dont il parle, parce que ça, comme le disent les experts du GIEC, avoir de l'inquiétude pour l'avenir, c'est pas une anxiété, c'est pas psychiatrisable. Oui. Ils le disent. Mais ils disent non. Ils disent, c'est plutôt les conséquences. C'est-à-dire que... Et il parle aussi, par exemple, des gens qui s'inquiètent face à la montée à la baisse des pluies, c'est-à-dire à la montée des sécheresses, et qui ont une vraie peur, une vraie crainte, et qui se disent je vais devoir me déraciner, je peux pas rester ici, parce que si je reste ici, je peux plus manger, je peux plus voilà. Et ça crée un vrai quelque chose qui est vraiment palpable, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le rapport, parce qu'ils disent on peut pas non plus faire comme si il y avait que des impacts physiques, il y a aussi un impact sur la psyché des gens, et cet impact il entraîne derrière des actes, des choses qui peuvent être extrêmement violentes, ou voilà. Il parle d'ailleurs dans une interview, il y a un des responsables du GIEC qui disait qu'il a été surpris par exemple d'entendre parler du suicide des sécheresses, parce que lui n'avait jamais percuté à ça. C'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils peuvent rien faire, finissent par se suicider parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et ça paraît horrible, mais on en parlait avec les agriculteurs une fois à la causerie. En France, les agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de l'agriculture, là, c'est un peu la même chose, mais lié, en fait, à un phénomène climatique. Et ils disent, finalement... Voilà, on peut faire des parallèles. Ils tiennent à les faire parce qu'ils disent il faut arrêter de toujours minimiser. Voilà. En termes social et économique, le dérèglement climatique a un impact sur le pouvoir d'achat. Alors là, quand on dit ça, on dit comment ça, ça a un impact sur le pouvoir d'achat. Oui, parce qu'on est forcément moins productif quand on travaille à 50 degrés que quand on travaille à 40. Hein, voilà. Et en fait, moins de rendement, donc moins d'argent dans les foyers, donc. Les prix, eux, par contre, ils ont tendance à toujours augmenter. Donc, ça fait moins de possibilités d'achat. Et sachant que le salaire fixe est minoritaire dans le monde, c'est-à-dire ce que vous vivez généralement dans les pays riches, c'est-à-dire avoir un salaire fixe, c'est minoritaire, je dis généralement, parce qu'il y a plein de gens aussi dans les pays riches qui n'ont pas de salaire fixe, mais majoritairement, notamment en France, on a un salaire fixe. En fait, c'est minoritaire. Donc, on imagine facilement l'impact que pour les populations les plus pauvres. Voilà. Donc parlons d'une cause importante, hein, parce que là je voulais finir là-dessus, c'est les déplacés climatiques et réfugiés climatiques. J'ai parlé la semaine dernière des réfugiés qui arrivaient et qui semblaient paniquer terriblement l'Europe et pas mal de gens, tous ces réfugiés ukrainiens. Je fais une petite parenthèse, on en a accueilli 30 000 en France, on est assez minable. Voilà, je ferme ma parenthèse. Laissez-moi vous dire que ce n'est que le début. Hein. Les experts soulignent que sans action, si on ne fait rien aujourd'hui, si on continue sur cette courbe-là, il y aura 216 millions à peu près. Hein. Alors, c'est une estimation, comme ils le disent. Il y a une fourchette. Alors, la fourchette, ils la fixent. Le 216, c'est au milieu de la fourchette, hein, pour vous dire. Donc, c'est entre 100 millions et 300 et quelques millions de réfugiés climatiques en 2050. Voilà. Alors même 100 millions, c'est déjà énorme. Hein. Donc là, ils disent 216. Et les experts, ils insistent. Si aucune action n'est faite, donc il est encore possible de faire des actions, mais si aucune action n'est faite, ça arrivera. Et ça arrivera de façon d'autant plus sûre que si nous ne faisons rien pour diminuer l'accélération des gaz à effet de serre, donc si nous n'allons pas vers une baisse des gaz à effet de serre, et si nous n'aidons pas, nous n'avons pas de moyens d'aide pour les plus démunis et les régions du monde les plus pauvres, en fait, ces précaires et ces démunis ils vont automatiquement bouger parce qu'ils pourront plus vivre là où ils se trouvent. Voilà. En gros, c'est ce qu'ils disent. Il suffirait de mettre une politique à minima humaniste. Ça, c'est moi qui le traduis comme ça. Voilà. Ça ne demande pas non plus. Voilà. Donc je vais vous lire une phrase qui résume très bien tout ça, et on la trouve dans News UN. Oui, des fois je lis le journal en ligne des Nations Unies, je vous conseille de le faire, c'est assez intéressant. Donc c'est une phrase qui dit « Le GIEC insiste sur l'urgence d'une action climatique axée sur l'équité et la justice. » Donc voilà. Un financement adéquat, le transfert de technologies, l'engagement politique et le partenariat permettent une adaptation au changement climatique et une réduction plus efficace. Voilà. Alors ça, c'est pas n'importe qui le dit, hein, parce que c'est un des experts du GIEC. Et j'ai pas écrit son nom. Pourquoi j'ai pas écrit son nom? Oh là là. Pardon. J'ai pas noté son nom. Mais je vous le redonnerai. Je le mettrai sur le blog. Voilà. C'est Otto Perns, je crois, de mémoire. Voilà. Et donc, du coup, on s'étonne pas trop que personne ne parle de ce rapport. Hein. Quand on voit ce qu'il dit. Parce qu'en gros, le rapport, il dit qu'il faudrait peut-être sortir un peu du capitalisme et passer à l'entraide. Ce sera un peu plus efficace. Voilà. Voilà, je sais que je reviens souvent sur ce sujet dans l'émission, comme je le disais au début, et que sans doute, vous vous dites que c'est pas très utile ou que c'est redondant, tout ça. Alors simplement, il faut prendre conscience que c'est bien ce qui nous attend de plus impactant et violent, en dehors des guerres, hein, évidemment, dans les années à venir pour l'humanité. Et c'est pas à prendre à la légère. Voilà, même si certains continuent à se mettre des doigts dans les yeux, voilà. Voilà. Ah, et oui, pardon, je me suis trompé. Je vais vous citer quand même la phrase du Monde Direct qui est de Hans Otto Portner et qui conclut très bien ce que je disais. Les preuves scientifiques sont sans équivoque. Le changement climatique constitue une menace pour le bien humain et la santé de la planète. Tout nouveau retard dans l'action mondiale concertée fera passer à côté d'une fenêtre brève et qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable. Voilà, donc ça c'est Hans Otto Portner, et Hans Otto Portner c'est un des porte-parole du GIEC. Il prend pas de pincettes hein, dans ce qu'il dit. Voilà. Et donc je vous rappelle que le GIEC, bah, c'est accessible sur www.ipcc.ch. Oui, parce que GIEC, en anglais, ça se dit Intergovernmental Panel on Climate Change, donc IPCC. Voilà. Donc c'est www.ipcc.ch. Et que beaucoup des parties sont traduites en français, ou sinon, avec un excellent traducteur, vous pouvez traduire le rapport. Parce que bon, c'est même pas secret, hein, figurez-vous. Donc, c'est fou.
C'est pas un complot, quoi.
Non, c'est pas un complot. Non, voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça. J'ai pas de solution comme ça à court terme à vous donner. Mais c'était juste quand même pour dire, renseignez-vous et surtout, prenons cela en compte le plus possible.
De toute façon, c'est comme tout plein de trucs. C'est que si on n'y réfléchit pas, nous, d'autres vont s'occuper d'y réfléchir à notre place. Ouais. Et d'autres sauront réagir face à l'urgence parce qu'ils auront un peu anticipé.
Tout à fait.
Et tant qu'on n'anticipe pas, ça veut dire qu'on se laissera prendre par ce cycle d'urgence. Et ce qui ferait que quand on est dans l'urgence, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir et de mettre en place des choses. Et donc ce seront toujours les mêmes qui prendront les choses en main, c'est-à-dire les États, l'autoritarisme, etc. etc. Donc ouais, effectivement, il faut peut-être qu'on prenne ça plus au sérieux. Quoi.
Oui, c'est ça. Et c'est, pour moi, c'est un vrai sujet politique. Parce que c'est un sujet d'entraide. Et par définition, un sujet d'entraide, c'est un sujet politique et ce n'est pas un sujet de droite. Voilà. Souvent, l'entraide, elle n'est pas trop à droite.
Enfin, oui,
je dis ça comme ça. Mais...
Oui, et qu'en même temps, l'écologie qu'on peut entendre par-ci, par-là, c'est souvent une écologie très soft, en fait. C'est-à-dire qu'il ne remet pas grand-chose en question. Et c'est un truc qui passe souvent sur les réseaux, hein, mais l'écologie, sans notion de classe, c'est du jardinage, en fait.
Hein, oui, mais...
Donc,
bah...
c'est foncièrement politique, en fait.
Je pense qu'il va falloir aussi qu'on réfléchisse, par exemple, à hacker des technologies pour les transférer si les capitalistes ne le font pas eux-mêmes, qu'il va falloir qu'on sorte peut-être du légalisme par moment, parce qu'il y a une urgence, c'est une urgence vitale. Voilà, c'est juste ça, par exemple, que je vous dis qu'on peut se poser sur la table. On s'écoute un peu de musique ?
Allez, go.
Manches sollte, manches nicht, wir sehen doch, sind wir blind, wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, was soll immer so weitergehen? Zeit, 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 Zeit. Bitte bleib stehen. Kalt,
Zukunft kann man nicht beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, was soll immer so weitergehen? Zeit, 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 Zeit. Bitte bleib stehen.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et on vient de s'écouter Rammstein avec leur dernier titre Zeit. Alors c'était un remix par Robotcore ou Robotcock, je sais pas comment on le prononce du coup, c'est K-O-C-H. Alors juste pour vous dire, je vous ai passé le remix, je vous invite vraiment à aller voir la version originale de ce titre qui est juste magnifique et c'est une chanson qui parle du temps qui passe et de la fugacité des moments de bonheur. Voilà, alors c'est du grand Liedman comme d'habitude avec un texte magnifique et juste je trouvais que ça se prêtait bien à ce que dont je parlais avant, c'est que des fois il faut pas laisser passer certaines infos et laisser passer devant nos yeux certaines choses sans réagir. Voilà. Et là c'est Jean-Yves qui va nous faire voyager et il s'est dit, Jean-Yves, tiens, si on prenait le train.
Mais tout à fait, ce soir, pour effectivement se changer un petit peu les idées, s'aérer un petit peu l'esprit, je me suis dit qu'on pouvait aller prendre le train ensemble, ou en tout cas vous inviter à prendre le train. Et ça va se faire par le biais du livre « Au prochain arrêt » de Hiro Arikawa, édité par Actes Sud. Alors comme d'hab, hein, avant de parler du livre, quelques mots sur l'autrice. Alors Hiro Arikawa, elle est née en 72 dans la préfecture de Kochi, dans le sud du Japon. Elle a publié des light novels pour adolescents. Alors ouais, cherchez pas, hein, il n'y a qu'au Japon on utilise cette expression, même si des maisons d'édition en France se sont faites spécialistes en fait dans l'édition de ces light novels.
Ouais, c'est des histoires légères, courtes.
Oui, c'est ça, pour étudiants, collégiens et étudiantes.
Et que beaucoup de Japonais étudiants lisent dans les trains entre le départ et l'arrivée.
C'est des histoires courtes, très vite, c'est ça. Voilà. C'est ça. Elle a écrit ça avant, effectivement, de basculer sur des écrits, enfin des romans pour adultes. Alors, avant Au prochain arrêt, justement, qui est sorti en 2021 en France, elle a écrit Les mémoires d'un chat, qui est paru en 2017, toujours en France, et qui a obtenu un vif succès, en fait, et qui a été traduit dans de nombreux pays. Et perso, j'ai commencé à le lire.
Ah, tu en parleras une fois ici.
Oui. J'ai tellement aimé celui-là que je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir le reste. Et quand un chat me parle, je trouve que c'est très intéressant. Mais on va pas s'étaler sur celui-là. Donc, on va rester sur Au prochain arrêt. Mais comme dit, hein, je pourrais aussi vous parler des dizaines d'ouvrages en fait, qu'elle a sortis avant ces deux derniers romans là, mais vu qu'ils ne sont pas publiés dans l'Hexagone, je ne vois pas trop l'utilité. Hein, mais vous pouvez chercher.
À part si vous savez lire le japonais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas mon cas, donc effectivement, j'ai un peu passé le truc. Et donc, au prochain arrêt. Et ben alors, dans ce roman de 180 pages, en fait, il nous fait prendre le train, hein, comme je vous disais, qui fait la liaison entre Takarazuka et Nishinomiya, des villes situées dans le sud du Japon. Et en fait, c'est une ligne en fait qui comprend 8 gares qui feront autant de chapitres. Et le livre est composé en deux temps, donc 8 gares à l'aller, au printemps, et 8 gares, les 8 gares dans l'autre sens, donc pour le retour, donc à l'automne. Et donc, chaque chapitre nous amène à la rencontre de différents passagers et passagères qui montent, qui descendent de ce train, on retrouve les mêmes, en fait, à l'aller et au retour. Et ça ira hein, d'un mec et d'une femme fréquentant la même bibliothèque qui s'appréhendent, voire un petit peu plus.
Des dragouilles, tu veux dire ?
Ouais, je vais pas tout dire. À une femme ayant fièrement plombé le mariage de son ex, en passant par une grand-mère et sa petite-fille, un petit peu capricieuse la petite-fille, un peu chiante, jusqu'à un groupe de lycéennes, ou encore deux étudiants qui tombent amoureux, ou encore une jeune femme qui subit les coups de son mec... Et il y a encore d'autres personnages. Hein. Je ne vais pas vous dresser la liste de tous les personnages. Je vous laisse quand même un peu la surprise du truc. Et tout ce monde-là, bien que ne se connaissant pas, hein, vont avoir des interactions finalement directes ou indirectes. Et dans le chapitre de l'une, bah, on entendra un groupe d'étudiantes un peu bruyantes qu'on suivra dans un chapitre suivant en fait. Dans l'histoire de l'autre, une vieille dame accompagnée de sa petite fille, tiens, lui donnera de bons conseils, et ce qui fait qu'au final, tout le monde est un petit peu lié. Et justement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, en fait. Hein,
Ils sont liés par le voyage, du coup.
Mais pas que.
D'accord.
Et les personnages principaux d'un chapitre deviendront les secondaires d'un autre chapitre. Donc il y a vraiment un fil comme ça, et ce fil, finalement, c'est cette ligne de train, mais pas que, en fait. Donc voilà, hein, c'est sans compter aussi... sur ce qu'on peut découvrir, comprendre de la société japonaise, tout au niveau, tant au niveau du paysage, moi j'ai adoré, que des habitudes ou encore des traditions, de ce qu'il faut faire, de ce qui ne se fait pas normalement, etc. Ou encore aussi tout simplement des rapports humains au Japon. Est-ce que finalement ils sont si différents que ce qu'on peut connaître ici? Est-ce qu'il peut y avoir des rapports de classe? Tiens, on ne sait pas, peut-être. Mais encore une fois, hein, il ne s'agit pas non plus d'enfermer tout le monde dans un même moule. Et il ne s'agit pas là non plus d'une thèse sociologique sur le Japon, hein, qu'on se comprenne bien. On est bien dans un roman.
C'est une description d'un Japon moderne. Quoi.
C'est ça. Et là où le roman justement peut paraître léger, et il l'est d'une certaine manière, hein, parce qu'on est dans un train, bon, y a plus engagé comme sujet, on touche quand même du doigt, je trouve, encore une fois, du doigt, hein, donc, enfin des doigts, des problématiques pas anodines, comme le patriarcat, les violences, l'émancipation aussi. Donc... Je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que par ce genre d'histoires croisées, ces croisements de personnages, en fait, ils font toutes et tous en fait partie de la même histoire, tant humaine finalement que ferroviaire, sans forcément le savoir. Et c'est d'une certaine manière, en tout cas c'était comme ça que je le voyais, une mise en image en fait, un récit de nos vies, du hasard de la vie, des rencontres qu'on peut faire, si on y est ouvert, évidemment, là aussi, hein, si on est fermé comme une huître. On fera pas beaucoup de rencontres, mais comme en fait les gares, les métros, les bus qu'on peut utiliser en fait.
Ah,
on est tous dans un même truc, mais on a autant de vies différentes et en même temps elles peuvent parfois potentiellement rentrer en interaction. Donc là encore, hein, c'est un roman, donc forcément il y a plus d'interactions sur ces 180 pages que dans une réalité.
Oui, bah, le roman permet de dépasser la réalité
quand
même.
C'est quand même la force du récit, hein, justement. Donc voilà, et je me disais, pour les auditeurs et les auditrices qui pourraient, comme moi, aimer observer leurs semblables hein, dans les transports en commun, dans la rue, sur les quais du Rhône, tiens, dans les parcs ou parcs de la Tête d'Or, par exemple, et bien vous devriez aussi y trouver un intérêt, parce que c'est vraiment, on est un peu au-dessus de tout le monde, et en même temps on regarde un peu tout le monde, il n'y a rien de sexuel, hein, c'est juste aimer regarder ses semblables. Quoi.
Oui, c'est marrant que tu le précises. Tout
est... Bah, je voudrais pas qu'on fasse faire passer pour un truc. On peut l'être aussi, mais c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc perso, moi, je me suis amusé aussi à suivre ce roman. En fait, la ligne du train, en fait, avec Internet pas loin. Et vraiment, dès que j'avais un nom, tiens.
C'est une vraie ligne.
Ah, mais c'est. Oui,
vraiment,
oui, oui, oui. Enfin, moi, en réécrivant ce sujet, j'ai aussi cherché justement ces deux gares. Et quand tu regardes sur la carte, c'est pas forcément très, très loin. Oui. Mais en même temps, t'as une description des paysages, des. je me souviens d'une porte d'un temple, je sais plus.
Shintoïste sur.
Oui, c'est ça. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça et que, enfin moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est aussi un voyage finalement sans se déplacer et j'aime beaucoup cette idée là.
Mais cette ligne de train, ouais, je crois qu'elle est souvent décrite aussi dans des mangas parce qu'il me semble que c'est une ligne qu'on appelle une des lignes de des sakura, c'est-à-dire le moment où il y a des cerisiers en fleurs, et voilà. Et le fait que ce soit au début, au printemps, c'est pas, y a pas une histoire, on voit pas des cerisiers ou du rose, elle parle pas d'une coloration rose, quelque chose comme ça.
Là, de mémoire, je te dirais que non. Mais j'ai aussi une mémoire qui des fois est plus remplie de d'air
souvent,
que de matière.
Il y a des lignes de train comme ça qui sont souvent décrites parce qu'elles longent des...
Non, alors si je me souviens bien, c'est pas une des lignes c'est pas une des lignes les plus fréquentées non plus, si je me souviens bien.
Non, c'est
bien.
Une ligne secondaire en fait.
Ouais, mais encore, je voudrais pas vous dire de conneries. Et puis j'aimerais pas détruire
du tout, ça change rien.
Mais c'est juste, moi j'ai vraiment kiffé ça, quoi, de me retrouver, de voyager sur cette ligne de train. Donc voilà, donc c'est... Je vais pas en faire plus, hein, parce que l'idée c'est justement de vous inviter à le lire. Ça se lit vraiment super bien. Enfin moi j'aime beaucoup. Il y a de la pudeur et pas que. Enfin on est vraiment dans un truc que moi j'ai beaucoup aimé.
Mais ça aide à appréhender la société japonaise quand même.
J'en sais rien, c'est toujours compliqué. Est-ce que sur 180 pages, on a plus de la société
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, toi, en tant qu'occidental, comme on dit, dans les réactions, dans les codes?
Alors, surpris, pas forcément, parce que je peux. Enfin, je suis peut-être un peu curieux quand même, mais enfin, on a un peu des notions sur la société japonaise, comment elle peut être, même si, encore une fois, hein, il ne faut pas enfermer tout le monde là-dedans. Mais oui, il y a certaines choses. Enfin. Cette mariée, etc. Enfin, pas cette mariée, cette ex-fiancée qui vient détruire certaines choses. C'est intéressant sur les codes couleurs, les choses comme ça. C'est la symbolique. Le Japon, il y a pas mal de symbolique, etc. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, tu découvres un petit peu quand même. Mais encore une fois, ça vaut pas, évidemment. Si vous avez l'occasion de partir trois semaines, un mois au Japon, vous en saurez beaucoup plus. Mais je trouve que tu touches un petit peu du doigt certaines choses, aussi les préjugés, etc., les positions que certains ou certaines, surtout, hein, n'est-ce pas, les femmes devraient avoir et les jugements qu'elles pourraient rencontrer. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Oui, en plus l'heure avance, donc c'est très bien.
Ah, j'ai bouffé plein de temps.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais j'avais fini. De toute façon, comme dit, je voulais pas en faire 3 heures sur ce roman. Donc, je vous rappelle, c'est donc Au prochain arrêt de Hiro Arikawa chez Actes Sud, avec une de couverture que je trouve absolument formidable.
Il y a un sakura dessus.
Oui, il y a un sakura dessus. Il y a une ligne de train. Vous êtes entre du rose et du bleu. Enfin, c'est... Enfin, j'adore cette douceur qui émane aussi de cette une. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture et un bon voyage. Et encore une fois, vu que les commentaires sont fermés sur le blog, n'hésitez pas, si vous avez lu, si vous allez lire, si vous avez l'envie d'eux, n'hésitez pas à faire vos retours à lacauseriecanu@gmail.com. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir aussi vos avis, vos retours sur ce genre de choses qui sont loin d'être très politiques, mais que on n'est pas non plus que très politique tout le temps, et c'est aussi très bien de s'aérer l'esprit.
Alors la curiosité envers le monde, c'est le premier pas vers une vraie vision du monde.
Voilà. Et peut-être qu'un jour je vous parlerai des mémoires d'un chat. Allez savoir.
Moi je voulais juste que tu cites, si tu l'as, le ou la traductrice, parce qu'on les oublie tout le temps, et alors que c'est un boulot d'enfer.
C'est pas faux. En plus c'est sur la une Donc c'est roman traduit du japonais par Sophie Reffle.
Voilà. Parce que c'est souvent un énorme boulot.
Non, tu as raison.
Et c'est bien de pas les oublier.
Tu as raison. Et ben voilà, on passe à la musique tout de suite avant de se retrouver.
Double, seeing double,
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de La Causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h, pardon. Et on vient de s'écouter un deuxième extrait du tout prochain album de Lissom. Oui, vous saurez que je suis fan, évidemment.
Non, c'est vrai. C'est un peu comme Altarba aussi, non?
Un petit peu, oui, ah, effectivement.
Et un peu les Idols aussi.
Oh, oui, c'est vrai. Si ça ne vous plaît pas, ben vous bouchez les oreilles le temps de la musique et puis vous revenez après. Donc le titre, c'est Trouble et c'est donc Lissom et l'album est tout bientôt à venir. Eh ben on a quelques non ouais. Un rendez-vous.
Alors
je
moi
crois
j'ai
que tu as.
Ouais, c'est un gros rendez-vous parce que c'est un festival. Alors c'est le festival Divers-Jean. Alors ça s'écrit Divers-X-Jean. Voilà. Donc c'est une semaine autour des neuro et physio-diversité. Donc c'est du 28 mars au 2 avril. Donc c'est une semaine complète de rencontres diverses autour des neuro et physio-diversité avec le soutien de la Griffe. Donc c'est la librairie La Griffe et de la Marginale. Alors, je vais lire vite fait le descriptif. Hein. C'est nous étant les organisatrices et organisateurs, pas moi. Nous vous proposons une semaine complète de rencontres diverses du lundi 28 mars au samedi 2 avril. Le 2 avril étant la journée mondiale de l'autisme, nous avions envie de faire quelque chose de plus vaste et inclusif. C'est ainsi que naît le festival Divers-Jean, une semaine autour des neuro, hein, je vous l'ai déjà dit. Et donc, c'est à la Griffe et avec le soutien de la Griffe et de la Marginale. Donc, les événements sont ouverts à tout le monde. C'est pas réservé aux personnes concernés, c'est bien réservé à toute personne qui voudrait s'informer. Il y a deux lieux de rencontre, hein, donc c'est la librairie La Griffe, hein, qui est au 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, proche du métro Saxe-Gambetta, sauf l'après-midi jeu, parce qu'il y a une après-midi jeu qui se tiendra le mercredi, qui est à la Maison des étudiants, 90 rue de Marseille, dans le 7e, c'est pas très loin d'ailleurs. Voilà, je vais pas vous faire tout le programme, parce que c'est très long, sachez simplement que le 28 mars, donc à partir de 19h, à La Griffe, c'est l'ouverture du festival et donc des festivités, que vous avez ensuite à peu près tous les soirs à 19h, quelque chose qui se passe avec des choses en plus de temps en temps, l'après-midi, les mercredis, tout ça. Et pour trouver le programme, vous allez soit sur le site de La Griffe, donc c'est librairielagriffe.net, soit vous allez sur le site rebellion.info, j'avais perdu le point, rebellion.info, et vous avez toutes les informations. Et on souhaite une grande réussite à ce festival. Voilà.
Et ben voilà. Moi, j'ai pas d'autres rendez-vous.
J'avais autre chose, mais il faut que je passe au mois d'après parce que c'est le 2 septembre.
Ah oui, le 2 septembre.
Tout à fait, le 2 avril.
Oh, tout du moins, laisse passer l'été. Moi, j'aimerais bien partir en vacances.
Oui, voilà. C'est une soirée qui a lieu le 2 avril et pas du tout septembre. C'est une soirée de soutien aux inculpés de la lutte contre la maxi-prison en Belgique et ça se passe à Grande Zéro. Voilà, c'est l'idée de venir t'amuser pour aider à payer les 43 000 euros que les inculpés bruxellois ont à payer. Et donc, il y aura des concerts de techno et plein de fun. Il y aura même des pizzas et des cocktails et tout, sans alcool et de la rigolade à gogo. C'est écrit comme ça. Donc, ça se passe à Grande Zéro. C'est 60 60 avenue Boyen à Bolène. Pourquoi j'ai écrit, c'est écrit de Boyen, ouais, mais c'est de Bolène. Voilà, donc c'est 50-060 rue de Bolène à Vaux-en-Velin. Et c'est à partir de 19h, c'est à prix libre. Et la fermeture des portes aura lieu au premier métro. Donc tard dans la nuit ou tôt le matin.
Ah oui, 3-4 heures.
Voilà. Et attention, ils veulent pas de pénible et il y a pas de carte bleue. Voilà.
Pour pénible, pas pouvoir payer avec la carte.
Donc voilà. Non, bah après. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pareil. Si vous voulez plus d'infos, bah vous trouvez les infos sur le site de Grande Zéro ou sur rebellion.info. Voilà.
Et on prévient les Lyonnais de centre-ville. Vous pouvez aller jusqu'à Vaux-en-Velin sans passeport vaccinal, sans rien. N'ayez pas peur. C'est juste une histoire de périph. Voilà. Ouais. Oh. On rigole.
On l'a fait à chaque fois en plus.
Mais oui.
C'est devenu un running gag.
Ben oui, c'est bien de taquiner les gens du centre. Ben je crois qu'on va se quitter
les
là.
Les gens du centre.
Je crois qu'il est largement l'heure de se quitter.
Je
crois
que sinon, je vais chanter.
Non, je crois que c'est Clara qui nous annonce le titre de fin.
Oui, on se quitte avec Kirira et le titre Applaus.
Mmh. Ça s'écrit comment?
Ce sera écrit sur le blog. Ouais.
Non, parce que j'ai trouvé leur titre génial et leur nom génial. Ouais.
Et ben voilà, on vous donne rendez-vous nous dimanche prochain, ouais. 22h, 23h, toujours à l'antenne de Canu. Et si vous voulez retrouver justement le nom du groupe ou l'orthographe du titre que Clara vient d'annoncer, tout se passe sur le blog de La Causerie.
Voilà.
Des bisous à vous, bon courage. Ciao.
Des bisous, salut.
Ciao.